Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 5 octobre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Au Burkina Faso, le chef de la junte s'est engagé à respecter le calendrier de la transition convenu avec la CDAO. En République démocratique du Congo, une nouvelle attaque attribuée aux ADF a fait au moins 10 morts et 20 disparus. Le gouvernement éthiopien accepte une invitation de l'Union africaine à des discussions de paix avec les rebelles tigréens. Le président Joe Biden est en Floride où l'ouragan Ian a fait une centaine de morts. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré assure qu'il va respecter le calendrier de transition convenu avec la CDAO après ses entretiens hier mardi avec une mission de l'organisation ouest-africaine. Les détails avec Nani Talani.
Ibrahim Traoré a promis que le Burkina Faso va respecter le compromis avec la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en 24 mois. Il s'est félicité du dialogue fructueux après sa rencontre avec la délégation ouest-africaine. L'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur de la CDAO qui dirigeait la délégation, s'est dit satisfait des échanges avec le nouvel homme fort du Burkina Faso. « Nous repartons confiants », a-t-il souligné, en assurant que la CDAO va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. La délégation a eu aussi une rencontre avec les chefs traditionnels et religieux. Les rencontres se sont tenues à l'aéroport de Ouagadougou où plusieurs dizaines de manifestants affichaient leur hostilité, brandissant des drapeaux russes et en scandant des slogans anti-France et anti-CDAO.
Burkina Faso toujours, l'attaque commise par des djihadistes fin septembre à Gaskindé, dans le nord du pays, a fait 37 morts, 27 soldats et 10 civils, a annoncé aujourd'hui l'état-major de l'armée. Les 27 militaires tués seront inhumés vendredi à Ouagadougou. Un précédent bilan faisait état d'au moins 11 soldats tués et d'une cinquantaine de civils disparus. En RDC, une attaque attribuée aux rebelles ADF a fait au moins 10 morts parmi les civils et une vingtaine de disparus dans l'est du pays. Abdourahman Dia.
L'incursion des présumés rebelles ADF a eu lieu dans le centre du village de Vido, dans le territoire de Beni, selon Patrick Moussoubao, président de la société civile locale. M. Moussoubao a estimé que les militaires congolais et ougandais présents dans la zone sont arrivés en retard sur place. Didi Isaya, fonctionnaire dans la localité de Kainama, où se trouve Vido, a également accusé les ADF d'être responsables du massacre et de l'incendie de 25 maisons. Le groupe ADF est présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Il est accusé de massacre de milliers de civils dans l'est de la RDC et d'attentats en Ouganda. Après quelques semaines d'accalmie, les attaques semblent reprendre dans le territoire de Beni, où les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes. Lundi, au moins 13 personnes, dont 3 militaires, ont été tuées dans une autre attaque attribuée à ces rebelles.
Les Nations Unies ont relevé plus de 3000 cas de torture et traitements dégradants en 3 ans depuis 2019 en RDC, commis 9 fois sur 10 dans les zones de conflit selon un rapport diffusé aujourd'hui. Tous ces actes sont commis dans un contexte de relative impunité dans la mesure où peu de plaintes contre les auteurs présumés sont déposés ou aboutissent. Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté aujourd'hui dans un communiqué ses excuses pour les diatribes de son fils sur Twitter qui avait notamment menacé d'envahir le Kenya. Le fils du président avait suggéré qu'il lui faudrait à lui et son armée 2 semaines pour s'emparer de Nairobi. Les propos du général Moïse Kainerugaba, fils aîné du chef de l'État ougandais, ont offensé le voisin kenyan. Mercredi, le président ougandais a critiqué son fils pour s'être ingéré dans les affaires du voisin et s'être publiquement exprimé sur des questions politiques, ce qui est normalement interdit à tout responsable militaire. 3 journalistes rwandais détenus depuis 4 ans et poursuivis pour avoir diffusé de fausses informations ont été acquittés aujourd'hui. Les 3 journalistes Damascène Mutimana, Shadrach Niyon Senga et Jean-Baptiste Nshiyumama ont été arrêtés en octobre 2018 lors d'une campagne de répression contre les critiques du gouvernement rwandais sur YouTube. Plus de 50 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne qui a touché mardi une école dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où se trouvaient des personnes déplacées par le conflit entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional, selon deux travailleurs humanitaires et les forces du Tigré. L'attaque dans la ville d'Addis Daero serait une des plus meurtrières perpétrées au cours de cette guerre de près de 2 ans qui a fait des milliers de morts et déraciné des millions de personnes. Pour autant, le gouvernement éthiopien a annoncé avoir répondu favorablement à une invitation de l'Union africaine à de prochaines discussions de paix avec les rebelles du Tigré. Jacques Aristide.
L'Union africaine a envoyé une invitation à des pourparlers de paix. Le gouvernement d'Éthiopie a accepté cette invitation dans la lignée de notre position de principe concernant la résolution pacifique du conflit et la nécessité de discussions sans préconditions, a indiqué aujourd'hui Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed. Le service de communication du gouvernement éthiopien affirme que l'UA a communiqué dans son invitation la date et le lieu des pourparlers, mais ne donne aucun détail à ce sujet. Pas de réaction pour l'heure des rebelles du Tigré en conflit avec le gouvernement fédéral éthiopien. Nous communiquerons les détails au moment opportun en consultation avec les parties, a de son côté déclaré Eba Kalondo, porte-parole de Moussa Faki, président de la commission de l'UA. Aucun détail sur les participants n'a non plus été publié, notamment si l'Érythrée voisine, dont l'armée épaule les forces gouvernementales éthiopiennes, a été invitée. Les rebelles tigréens ont toujours déclaré qu'ils refuseraient la présence d'Asmara à d'éventuels pourparlers.
L'épidémie d'Ebola en Ouganda a fait 29 morts, dont 4 agents de santé, a indiqué aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, inquiète en raison de l'inefficacité des vaccins face à la souche dite soudanaise du virus. Les vaccins utilisés avec succès pour enrayer les récentes épidémies d'Ebola en RDC ne sont pas efficaces contre le type de virus Ebola responsable de cette épidémie en Ouganda, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden est arrivé en Floride, où l'ouragan Ian a semé la mort et la désolation. Peu avant son départ, la Maison-Blanche a annoncé un nouveau coup de pouce à la Floride. Le point avec Eric Manirakiza.
L'administration Biden a doublé la durée établie initialement à 1 mois, pendant laquelle l'État fédéral financera la totalité des coûts liés à l'enlèvement de débris et les travaux urgents de consolidation. Joe Biden et son épouse Jill Biden se rendent à Fort Myers, au sud-ouest de la Floride, là même où l'ouragan a touché terre et fait le plus de ravages. Le couple présidentiel pourra s'en rendre compte à l'occasion d'un survol en hélicoptère avant de rencontrer des responsables politiques locaux et des résidents sinistrés. Joe Biden et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vont parler de ce qu'il faut à la Floride pour en venir à une phase de reconstruction, a dit mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Des centaines de milliers d'habitants de la Floride étaient toujours privés d'électricité mardi et les autorités ont affirmé qu'il faudrait des mois et 50 milliards de dollars, voire plus, pour reconstruire les zones côtières dévastées. Il s'agit du 2e déplacement de ce type en une semaine pour le président américain. Il s'était rendu lundi à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, dévasté par un autre ouragan, Fiona.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré aujourd'hui que la situation militaire se stabilisera dans les territoires ukrainiens dont il revendique l'annexion, mais où ses forces subissent une série de revers face à l'armée ukrainienne. Quelques heures plus tôt, l'Ukraine avait annoncé regagner du terrain dans la région de Luhansk après ses succès dans celle de Kherson et Kharkiv. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijja va passer sous le contrôle des agences gouvernementales russes après l'annexion officielle par Moscou de la région du même nom, a déclaré aujourd'hui le ministère russe des Affaires étrangères. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé ce mercredi son départ pour Kiev afin de discuter de la mise en place d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporijja. Au moins 31 personnes ont été tuées lorsqu'un bus transportant des invités à un mariage s'est abîmé au fond d'une gorge dans les montagnes du nord de l'Inde, a déclaré la police aujourd'hui. Le véhicule circulait sur une route dangereuse de l'état de l'Uttarakhand avec des dizaines de personnes à bord quand le chauffeur a fait une embardée provoquant la chute du bus à 500 mètres en contrebas, selon la même source. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Deux associations françaises alertent mercredi sur les causes humaines, climatiques et environnementaux inacceptables du méga projet pétrolier d'un groupe français Total, incluant un oléoduc de plus de 1400 km à travers l'Ouganda et la Tanzanie, et pointé en risque d'accidents pétroliers majeurs au large des côtes tanzaniennes. Total Energy a annoncé en février un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise SNOC. L'OMC a fortement abaissé mercredi ses prévisions face aux fortes turbulences économiques, géopolitiques, mondiales et table pour 2023 sur un net ralentissement du commerce mondial dont la croissance devrait malgré tout rester légèrement positive. L'économie mondiale est confrontée à des crises multidimensionnelles. Le resserrement monétaire pèse sur la croissance dans une grande partie du monde, a déclaré la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Le déficit commercial des États-Unis continue de se réduire, d'abord du fait d'une baisse des importations, notamment pétrolières, alors que les exportations sont également en léger retrait. En août, le déficit de biens et services avec le reste du monde s'est élevé à 67,4 milliards de dollars, en baisse de 4,3% par rapport au mois de juillet, selon les données publiées mercredi par le département du commerce.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le ministre guinéen des Sports affirme que son pays va être prêt en 2025, même si l'accueil de la CAN lui a été retiré.
Oui, le ministre guinéen des Sports, Lansana Bea Diallo, le dit clairement. Même si son pays n'accueille plus la CAN en 2025, la Guinée aura toutes les infrastructures prévues pour cette CAN et à la date indiquée.
Il y a juste une chose que je promets ici et que le président a promis et que le premier ministre a promis au président de la CAF et aux membres de la CAF qui ont pris cette décision, que nous allons tout mettre en place pour mettre toutes les infrastructures effectivement qui vont permettre à ce pays de se développer et qu'on restera dans la programmation qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2025, et qu'en 2025, on sortira tous les stades, nos hôpitaux, nos aéroports, toutes nos infrastructures qui sont en lien avec cet objectif qu'on s'est fixé.
Lansana Bea Diallo, ministre guinéen des Sports. Vendredi dernier, le président de la CAF s'est rendu à Conakry pour signifier aux autorités guinéennes le retrait du tournoi. Lors d'une conférence de presse samedi à Alger, Patrice Motsepe a indiqué qu'une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée, parmi eux, l'Algérie qui a annoncé qu'elle sera candidate à l'organisation de la CAN 2025.
Suite ce soir des matchs de la troisième journée de la Ligue des champions en Europe.
Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Chelsea doivent gagner face à l'AC Milan pour conserver un espoir de voir les huitièmes. La Juventus cherche à rebondir face au Maccabi Haïfa. Le Paris Saint-Germain effectue un déplacement périlleux à Lisbonne face au Benfica, auteur d'un excellent début de saison. Le Real Madrid reçoit au Bernabeu le Shakhtar Donetsk du Burkinabé Franck Lassina Traoré. Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez est favori pour la réception de Copenhague.
Mondial 2030, l'Ukraine intègre la candidature commune de l'Espagne et du Portugal.
L'annonce a été faite par les présidents des trois fédérations lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Le projet se veut être source d'inspiration pour la société au travers du football en lançant un message de solidarité et d'espoir. C'est ce qu'a déclaré la fédération espagnole dans un communiqué, ajoutant que cette inclusion a reçu le soutien d'Alexander Seferin, président de l'UEFA. L'exemple de ténacité et de résilience dont fait preuve le peuple ukrainien est une source d'inspiration, conclut la fédération portugaise dans un communiqué.
Ici à NBA, les managers généraux voient les Bucks remporter le titre cette saison.
C'est ce qui ressort d'un sondage annuel de la Ligue nord-américaine de basketball réalisé auprès des managers des 30 franchises en lice. L'enquête publiée sur NBA.com a révélé que les Milwaukee Bucks de Gianni Antetokounmpo, sacrés en 2021, sont considérés comme les favoris pour le championnat 2023 avec 43% des suffrages. L'an passé, ils s'étaient inclinés en demi-finale de conférence Est face aux Celtics, finalistes du championnat battu par Golden State. Les Warriors, tenants du titre, ont recueilli 25% des voix, tandis que les Los Angeles Clippers arrivent en troisième position avec 21% devant Boston, 11%.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale a entrepris d'associer ses compatriotes de la diaspora au processus de paix. Kwadio Konan Bertin était dans ce cadre ici à Washington pour évoquer les problèmes de l'heure en Côte d'Ivoire. Il a accordé une interview à Marius Munga.
Je suis ici aux États-Unis. J'ai pris mon bâton de pèlerin à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui m'a fait donc l'insigne honneur de me confier justement la délicate mission de réconcilier les Ivoiriens. Et le processus est engagé en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État met un point d'honneur à ce que ce processus soit le plus inclusif possible, c'est-à-dire qu'il tienne compte de l'ensemble des Ivoiriens.
La réconciliation passe également par le retour des exilés politiques. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a toujours des exilés politiques?
Je dis non, puisque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le 30 juin dernier, a mis fin au statut de réfugié en Côte d'Ivoire. Donc, plus aucun Ivoirien ne peut jouir du statut de réfugié à travers le monde. Il faut reconnaître qu'en la matière, nous avons connu beaucoup de progrès. Le plus illustre d'entre eux, c'est le président Laurent Gbagbo, qui était en prison à La Haye, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre des retours massifs ou même individuels. La Côte d'Ivoire, de ce point de vue-là, est bien engagé.
Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo peut-il aujourd'hui revenir encore comme pour postuler pour devenir chef de l'État en Côte d'Ivoire?
Ce n'est pas les individus qui répondent à ces questions. Tous ceux qui veulent président de la Côte d'Ivoire savent la voie à suivre. Il y a un conseil constitutionnel, il y a un code électoral qui clarifie, qui détermine les conditions d'élection, de participation de X ou de Y. Chacun est libre.
Une autre personnalité de votre pays, c'est Charles Blé Goudé, qui a reçu son passeport de votre gouvernement. Il n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi?
Je rassure les uns et les autres, et surtout tous ceux qui s'en préoccupent, pour leur dire que ce n'est qu'une question de temps.
C'est à quel niveau que ça se passe?
Il n'y a plus de soucis à ce niveau, c'est juste une question de temps. Peut-être même que d'ici là qu'on file l'interview, Blé Goudé sera à Abidjan. Qu'est-ce que vous en savez?
Il y a des pourparlers dans ce sens pour son retour?
Le président de la République a dépêché son chef de cabinet, déjà à La Haye, pour parler à Blé Goudé lui-même. Ça n'arrive pas tout. C'est même pas un ministre qui est parti, c'est le chef de cabinet du président de la République. C'est vous dire que lui-même, c'est un sujet qu'il traite lui-même. Il lui accorde une grande importance. Et son ministre, la réconciliation vous dit que ce n'est qu'une question de temps, que ce n'est plus un souci.
Et qu'est-ce qui bloquait jusque-là?
Rien ne bloquait jusque-là.
Mais ça avait pris du temps.
Et j'ai compris une chose avec le président Alassane Ouattara, c'est un homme structuré. Il ne pose pas de pas au hasard. Surtout qu'il est déterminé à ramener une paix durable. Il veut s'assurer qu'un pas qu'il pose dans ce sens garantit ou va consolider la paix. Une fois qu'il est dans la conviction, allez hop, il exécute.
Monsieur Guillaume Soro, qui n'est toujours pas rentré au pays, est-ce que vous savez pourquoi? D'une certaine façon, est-ce que vous ne pensez pas que ce retour fait partie aussi de la réconciliation que vous recherchez?
Je vous ai dit d'entrée de jeu que le président veut une réconciliation inclusive. Dans quel intérêt pensez-vous que le président Ouattara veuille exclure Guillaume Soro? Non. Sauf que pour aller à la réconciliation, il faut qu'il y ait donc deux volontés qui se croisent, qui acceptent d'aller à la réconciliation. Je l'ai suffisamment dit aux Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara a affiché, lui, sa volonté d'aller à la paix. Il a même tendu sa main à tous ses ex-belligérants. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés en Côte d'Ivoire. Eh bien, si Guillaume Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, je le dis encore une fois aujourd'hui, que le chef de l'État a sa main toujours tendue. Il lui appartient de saisir la main tendue et pour qu'on avance.
Il ne sera pas inquiété par la justice ivoirienne s'il revenait?
Si avant lui, ceux qui sont rentrés n'ont pas été inquiétés, pourquoi voulez-vous que ce soit particulièrement à son tour qu'il y ait des soucis?
C'était Kwadio Konan Bertin, ministre ivoirien de la Réconciliation nationale.
À Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Rwandais Félicien Kabuga a pris part pour la première fois à l'ouverture de son procès à La Haye, où il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800 000 morts en 1994 au Rwanda. Après 25 ans de cavale, il a été arrêté en France et transféré à La Haye, où il est jugé. Peu après le début de l'audience ce matin, j'ai joint Venus Nshimiyimana, envoyé spécial de la VOA à La Haye.
Félicien Kabuga, c'était l'homme d'affaires rwandais qui était très prospère avant 1994, avant le génocide des Tutsi au Rwanda. Félicien Kabuga est aujourd'hui accusé de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide et d'atteinte en vue de commettre le génocide, qui sont des actes bien évidemment constitutifs de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il est ici à La Haye et poursuivi pour avoir bien évidemment être l'un des fondateurs de la fameuse radio-télévision libre d'Émile Colline, mais qui est accusé aussi, la radio, d'avoir propagé des messages anti-Tutsi, des appels à la haine et des appels au meurtre contre les Tutsis en 1994.
Alors, les avocats de Félicien Kabuga disent qu'il est innocent, mais ce matin, un témoin l'accuse de la propagande ayant conduit au génocide. Parlez-nous de la déposition de ce témoin.
Eh bien, le témoin qui est le premier témoin de ce procès historique a déposé ce matin devant le tribunal. Donc, on a entendu un témoin qui dit qu'il connaît bien Kabuga, qu'il était aux réunions auxquelles participait Kabuga, et dit que donc, pour lui, Kabuga savait ce qu'il faisait, était responsable de cette radio et donc devrait répondre de ce qui est reproché à cette radio.
On nous dit que ce procès pourrait durer. À quand doit-on espérer son dénouement alors?
Mais tout d'abord, Roger, il faut souligner que c'est un procès bien évidemment attendu depuis plusieurs années et qui a beaucoup souffert du fait que beaucoup de témoins sont décédés depuis 1994. Et donc, le procureur a dû voir comment fortifier son dossier qui s'était affaibli par le fait que certains témoins disparaissaient au fil des temps. Aujourd'hui, le dossier semble plus ou moins solide, il est là, il doit être jugé. Et donc, c'est un procès qui risque de durer au moins 2 ans, au cours duquel nous verrons défiler une cinquantaine de témoins pour le procureur, mais il faut aussi s'attendre à d'autres témoins qui seront présentés par la défense. Et puis, au-delà de ces 2 années de procès, il faut ajouter 3 à 4 mois pour la confection du verdict. Et donc, il faut attendre encore un peu.
C'était Venus Nshimiyimana, envoyé spécial de la VOA à La Haye.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le deuxième coup d'État au Burkina Faso en l'espace de 8 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, poussant le lieutenant-colonel Damiba à rendre le tablier et à s'exiler au Togo. Dans les 2 putschs, les auteurs citent l'insécurité comme principale cause de leur action. Et le nouveau maître de Ouagadougou évoque également la nécessité de se tourner vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. Quels enseignements tirer de ces derniers pluies de bottes à Ouagadougou? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les États-Unis sont préoccupés par le rapport de la Commission du dialogue national du Tchad qui recommande une prolongation de la transition de 24 mois et qui autorise les membres du Conseil militaire au pouvoir à se présenter aux futures élections alors que la junte s'était engagée à ne pas y participer. Pour Washington, ces recommandations peuvent mettre en péril la transition vers un gouvernement dirigé par des civils. Nani Talani a joint en Afrique du Sud Johan Schmonsiz du département d'État américain.
Il s'agit tout d'abord du rôle des membres du Conseil militaire de transition et la décision de la Commission pour les permettre de se présenter comme candidat aux futures élections post-transition. Parce que nous sommes préoccupés que les recommandations de la Commission constituent un monopole du pouvoir au sein de l'exécutif. Et ces recommandations mettraient en péril la transition démocratique promise au peuple tchadien.
Que demandent les États-Unis au gouvernement de transition?
Les États-Unis suivent de près les délibérations du Conseil et c'est pour le Conseil et le peuple tchadien de décider comment ils veulent continuer, comment ils veulent poursuivre cette transition. Il s'agit simplement de partager nos préoccupations avec le Conseil et réaffirmer notre soutien aux principes qui ont été énoncés dans un communiqué du Conseil du pays et de sécurité de l'Union africaine de mai 2021. C'est au sein de ces efforts que nous prononçons nos préoccupations.
Est-ce que Washington est prêt à aider le Tchad à réussir une passation démocratique du pouvoir?
Oui, nous étions toujours là pour le Tchad et le peuple tchadien. Il y a plusieurs programmes américains qui sont en place sur le terrain. Il y a l'USAID qui est là sur le terrain. Nous avons toujours encouragé les efforts vers de la bonne gouvernance, le respect pour les droits de l'homme, les efforts anti-corruption. Et nous allons soutenir notre emphase sur l'état de droit et la comptabilité pour tous partis, pour renforcer les institutions civiles qui renforcent la transition. Et nous allons maintenir toujours nos relations fortes avec les institutions de sécurité, avec les partenaires internationaux et bien sûr les institutions gouvernementales.
C'était Yuan Schmontzis du département d'État des États-Unis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé plusieurs missiles aujourd'hui vers des cibles en mer, au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon. L'administration Biden se dit toutefois ouverte au dialogue avec Pyongyang. Le compte-rendu des réactions avec Patty Widakuskwara, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche, le récit est de Jacques Aristide.
Les armées sud-coréennes et américaines ont chacune tiré deux missiles balistiques à courte portée ce mercredi, d'après Séoul. Dès mardi, des avions de combat sud-coréens et américains ont effectué des manœuvres de frappe en mer jaune. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous continuerons à coordonner la réponse immédiate et à plus long terme bilatéralement, trilatéralement avec la République de Corée et avec la communauté internationale.
Mardi, un missile balistique à portée intermédiaire nord-coréen a survolé le Japon. Une première en 5 ans qui a conduit Tokyo à activer son système d'alerte. Fumio Kishida, le premier ministre japonais, s'est entretenu le même jour avec le président américain Joe Biden.
Le tir de missile balistique par la Corée du Nord était un acte scandaleux qui était absolument inadmissible. Nous répondrons dès que possible avec la plus grande vigilance.
Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont récemment multiplié les manœuvres conjointes. Washington se dit déterminé à défendre à ses alliés, mais toujours ouvert au dialogue.
Notre objectif reste la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous restons prêts à nous engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue pour faire des progrès tangibles à cette fin et nous restons prêts à rencontrer la Corée du Nord sans condition préalable.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mercredi sur la question. Pyongyang a récemment adopté une loi l'autorisant à mener une frappe atomique préventive. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen.
En promulguant la politique de la force nucléaire dans la loi, le statut de notre pays en tant qu'État doté d'armes nucléaires est devenu irréversible.
Naoko Aoki, chercheuse à l'Atlantic Council, commente le sujet via Skype.
Les Nord-Coréens essaient définitivement de profiter de la situation dans le sens où les États-Unis se concentrent sur la guerre en Ukraine et cela leur donne de la place et du temps pour poursuivre leurs objectifs.
La Corée du Nord a également tiré des missiles balistiques à courte portée la semaine dernière lors de la tournée de la vice-présidente américaine Kamala Harris en Corée du Sud et dans la zone démilitarisée.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges Léonard Sagno, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.